Romains 6. Romains 6, nous allons considérer l'après-midi, hein? J'essaie de pas trop en regarder d'un coup. Il va deux versets à la fois. Là, ça va être comme deux et demi, on peut dire, parce que verset 6, ça va être dans le prochain message. Mais on va y effleurer un petit peu. Mais on se concentre vraiment plus sur 4 et 5 aujourd'hui. Comprendre le fruit de notre sanctification. On va juste lire les versets 4 à 6 pour s'introduire. Bon, on va commencer au verset 3, vu que ça va nous faire un peu le lien avec ce qu'on a vu avant. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » On vient de lire là la vérité centrale que Dieu nous donne pour avoir la victoire sur le péché. Parce que ça termine, on dit « afin que nous ne soyons plus esclaves du péché ». Voici ce que Dieu a fait pour nous délivrer, nous libérer de l'esclavage du péché. Je veux juste vous rappeler que dans la section qu'on regarde, les versets 1 à 10 là, du chapitre 6, à trois reprises, ça réfère à comprendre, savoir des choses. Okay? Dieu s'adresse d'abord à notre pensée. Dans le verset 3, quand ça dit « ignorez-vous », c'est « ne connaissez-vous pas », donc ça part de la connaissance. Au verset 6, « sachant », okay? On sait ces choses. Puis aussi au verset 9, encore la même expression, « sachant ». Donc, c'est des choses que Dieu veut qu'on sache. Dieu s'adresse à notre pensée afin de produire, on va voir au verset 11, hein, là je révise un petit peu parce qu'on avait vu ça dans un message subséquent, mais une conviction dans nos cœurs, quelque chose qui est plus que juste dans nos pensées, quelque chose qui vient nous chercher. Nos émotions, nos désirs, nos affections sont affectées. C'est pas juste quelque chose de froid dans ma tête, c'est quelque chose qui me motive, qui vient me chercher profondément. Et tout ça, ça découle, ma pensée, mes émotions. Et versets 13, 12 et 13, ça découle sur le renouvellement de ma volonté. À cause que là, j'ai cette nouvelle façon de penser qui vient me chercher dans mes tripes, ben là, je cède à Dieu mes membres comme des instruments de justice. Et il y a toute une logique qui va là-dedans, dans ce que Paul ici développe. Et ici, dans les versets 5 et 6, auxquels on s'intéresse particulièrement aujourd'hui, l'emphase est sur le fruit de notre sanctification. On a vu, avec la mort de Christ, c'est la base. Si on voulait pouvoir vivre pour Dieu, il fallait d'abord mourir. C'est-à-dire, on ne peut pas, comment ça dit dans le cantique, on ne peut revivre sans subir la mort. Okay? Ben, la base de notre sanctification, c'est notre mort avec Christ. On a vu ça, pas la semaine passée, mais il y a deux semaines. Ben là, on va voir le fruit avec la résurrection, la nouveauté de vie. Okay? Le fruit de ça. Et la vie qui résulte de notre union avec la mort de Jésus-Christ, vu qu'on est mort maintenant, on peut vivre en lui, on est uni à lui dans sa mort, sa résurrection, c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui. Mais avant, je veux juste clarifier quelque chose. Comme un matin, j'ai clarifié par rapport à notre image de Dieu, là, je veux clarifier quelque chose de théologique, d'important. Concernant notre ancienne nature versus notre nouvelle, il y a souvent une incompréhension dans les milieux chrétiens en disant que, en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, on a deux natures. Des fois, hein, il y a une illustration, il y a un chien blanc, puis un chien noir, puis il faut nourrir le chien blanc. Puis, comme si on avait la nature pécheresse en nous, puis la nature, ou la nature adamique, puis la nature christique, ou la nature renouvelée, régénérée, la nature non régénérée. OK? Notre passage ici nous montre que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme, c'est notre ancienne nature, c'est notre nature adamique. Notre nature adamique ne cohabite pas avec notre nouvelle nature. Puis je vais vous expliquer pourquoi. On va voir la semaine prochaine avec le verset 6 plus en détail. Je vous ai dit qu'on allait un peu effleurer le verset 6, mais ce dont il est question dans le verset 6, c'est une transaction spirituelle. Un est mort et remplacé par le vivant. Adam, ce qu'on était en Adam, c'est passé. Maintenant, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. OK? Et donc, il n'y a pas de cohabitation entre la nature adamique et la nature christique, ou la vieille nature et la nouvelle. Parce que selon Matthieu 5, 25, Dieu nous aurait mis dans une position de garantir notre échec. Parce que ça dit dans Matthieu 12, 25, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Si Dieu nous avait laissé deux natures conflictuelles en dedans de nous autres, on serait voué à l'échec. OK? Selon les paroles même de Jésus. Et souvent, on peut se sentir comme si on avait... À cause que le péché est encore en nous, ça existe encore. Mais c'est pas notre nature. On est un saint qui pêche. OK? Notre nature, c'est saint. On commet des péchés parce qu'on a encore le péché dans nos mains. Ça, c'est clair. On ne croit pas comme dans le témoignage d'Éric, quelqu'un avait dit « on ne pêche plus ». Non, non. Les chrétiens pêchent encore, ils ont le péché en eux autres. Mais pas la nature pécheresse. OK? C'est vraiment important à comprendre. Et ça, en dépit des émotions. Mais ce que la chair fait... Ce qui est très clair, plutôt, c'est ce que Dieu a fait, selon nous, en Jésus-Christ. Il nous dit lui-même, il prend avec cette parabole, avec les draps et les outres de vin, il dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car il emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, parce que les vieilles outres, il y aurait de la fermentation, ça l'exploserait. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Pour faire le parallèle, le vin nouveau du Saint-Esprit de la vie de Christ en nous est dans l'outre nouvelle de notre nature régénérée. Tu ne peux pas prendre la vieille nature puis faire habiter l'Esprit de Dieu dedans. Sinon, ça se romprait, ça ne marcherait pas. Okay? La vieille nature adamique n'est pas compatible avec l'Esprit de Dieu, la nature régénérée que Dieu nous a donnée. Ou pour encore, je pousse sur ce point-là pour que ça soit clair pour tout le monde. On a besoin de nouvelles outres pour que on soit compatible avec Dieu. Puis là, je vous dis, parce que deux entités incompatibles, ça ne peut pas marcher. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et nul ne peut servir deux maîtres. Et de la même façon que, vous savez, les non-sauvés, ils ont comment de maître? Il y en a un, c'est Satan. Puis le péché règne dans leur vie à cause de ça. Les chrétiens, ils ont un maître, c'est Dieu. Et la grâce règne à cause de ça. Okay? Le maître amène un règne. Satan amène le règne du péché. Dieu amène le règne de la grâce. Ça, c'est Romains 5, 21. OK? Bon. Mais là, par exemple, là, il y a un mais. C'est là qu'on a des problèmes. Notre ancien maître, là, Satan, là, c'est pas comme s'il est parti en vacances en Ouloulou puis il ne nous tente plus le reste de notre vie. Notre ancien maître, là, il est bien tenace. Puis, il veut continuer à nous soumettre à lui, à sa volonté. Hein? Lui, il veut vraiment, là... Il veut vraiment pas laisser sa place. Voilà pourquoi Dieu nous a non seulement mis fin au règne de la mort dans notre vie, hein? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du règne du péché et de la mort, mais Dieu, c'est ça, il a expulsé ce règne par le règne supérieur. Le règne de la mort qu'il avait, du péché puis de la mort, Dieu l'a expulsé par le règne de l'esprit puis de la vie. Donc c'est un qui va... Ils ne peuvent pas cohabiter parce qu'un est plus fort puis chasse l'autre. Il peut pas avoir de cohabitation parce que l'Esprit de Dieu chasse, repousse le règne de la mort. OK? Et là, on va considérer ça avec trois révélations importantes à comprendre par rapport aux fruits de notre sanctification. OK? Des révélations qu'on donne dans notre texte par rapport à notre sanctification, le fruit de notre sanctification. D'abord, et c'est là que vous avez besoin de vos feuilles. Là, vous pouvez les sortir, les regarder. Puis, d'abord, ma vraie identité est révélée. Quand ça dit au verset 6, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En sa mort, c'est en lui. Puis là, juste pour vous dire, toutes les références que vous avez sur cette feuille sont en ordre, tu sais, duquel ils apparaissent dans le Nouveau Testament. Ça commence dans Romains. Mais puis après ça, ça finit là. La dernière référence est dans Colossiens. C'est très, très concentré dans les épîtres pauliniennes, les épîtres de captivité beaucoup, Romains. Mais où est-ce qu'on l'a ici? On l'a dans le verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Crucifié avec lui, c'est crucifié. On est notre ancien moi a été crucifié en lui, en Jésus. Comme je l'ai expliqué, hein, on est mort. On était mort en Adam, là on est mort avec Christ, donc on est en lui. On est identifié à Christ dans sa mort. On est mort avec lui, en lui. Je ne vais pas m'étendre. Cette feuille-là, gardez-la. Pliez-la en deux. Mettez-la dans votre Bible, puis retournez là-dessus. Là, ça serait très long de regarder ça, mais voici c'est quoi le bénéfice de cette feuille. Vous avez toutes les références du Nouveau Testament, bien de la Bible, parce que c'est une vérité qu'il y a dans le Nouveau Testament seulement, parce que c'était pas révélé dans l'Ancien. Mais tous les versets, toutes les références bibliques qui nous disent ce que nous sommes en Jésus. C'est vraiment intéressant parce que on est bien des affaires en lui. Ce que Dieu a fait de nous en Jésus. Toutes les références sont là, OK? Juste quelques petits commentaires là-dessus, sur cette feuille. Ça nous aide à constater, ça c'est comme le matériel brut là, de la révélation du Nouveau Testament, ça nous aide à constater ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Il est notre vie et il vit sa vie à travers nous. Ça veut dire que on a une vie surnaturelle, d'agapé, d'amour qui vient de Dieu, de la vérité dans l'amour. Donc, ce n'est pas une lutte constante pour essayer de combler nos besoins. Non, il nous a tout donné pleinement. Devenez où? En lui. Ça, c'est une de ses références. Nous avons tout pleinement? En lui. Voyez-vous? Fait que c'est ça l'idée. Juste vous encourage à regarder ça dans la prière, dans le calme de chez vous, dans votre temps avec le Seigneur. Puis, ça, c'est vraiment une bénédiction. Donc, ça, d'abord, notre identité est révélée avec toutes ces références-là sur ce qu'on est en lui, ce qu'il a fait de nous, OK? Mais aussi, on a notre vrai combat qui est révélé. Dans le verset 4, ça dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Puis là, après ça, ça dit « Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Première partie du verset, ça nous dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça nous rappelle que c'est notre naissance, on parlait de ça tantôt, et non notre performance qui détermine notre nature. C'est parce qu'on est mort et enseveli avec Christ, puis qu'après ça, on est né de nouveau, qu'on peut marcher en nouveauté de vie. C'est ça qui détermine ma nature. C'est pas ce que je fais, c'est ce que Dieu a fait de moi. Il m'a fait mourir pour me faire naître de nouveau. Car, quand même que si les hommes là, autour de moi, puis ça, ou si moi-même, je me définis en fonction de ma performance, autrement dit, qu'est-ce que le monde va dire? T'es pécheur parce que tu pêches. C'est ça qu'on entend, n'est-ce pas? Ça, c'est une hérésie, c'est pas vrai, là. Okay? Théologiquement, c'est faux. Dieu dit au contraire, tu pêches parce que t'es pécheur. Le fait que t'es pécheur, ça démontre. Le fait que tu pêches, ça démontre ce que t'es. C'est une distinction théologique importante. Il y en a que c'est du palégianisme, là, pélage. Puis l'autre, ben, c'est biblique, là. Tu sais, c'est à cause que je suis pécheur, donc je pêche. Et non pas le péché que je commets me rend pécheur. Je ne deviens pas pécheur parce que je pêche. Ça, ça veut dire que je naîtrais sans nature pécheresse. OK? C'est pour ça que c'est une hérésie. Là. Mais le monde dit ça, par exemple. Puis ils nous définissent, puis ils disent, ah, ben là, parce que tu bois, tu es un alcoolique. Parce que, tu sais, puis en même temps, parce que tu mens, tu es un menteur. OK? On peut dire, oui, qu'est-ce que ça fait un menteur, ça ment, mais c'est pas comme ça qu'on doit se définir bibliquement. Si je suis un enfant de Dieu qui ment, je suis un saint qui ment. Mais je ne suis pas un menteur, c'est pas mon identité menteur. Ouh, OK, les différents péchés qu'il peut y avoir. C'est important. Pour un enfant de Dieu, notre salut n'a pas fait de nous des pécheurs sauvés par grâce, comme on entend souvent. I'm just a sinner, saved by grace. Comment c'est quoi? Je ne me rappelle plus de l'air de la chanson, mais je suis juste un pécheur sauvé par grâce. Non, on est des saints qui pêchent. C'est pas pareil. Ça ne renie pas le péché, mais ça change le point de départ. Ce que je suis, c'est un saint. Hein, oui, malheureusement, je pêche. Mais c'est pas pareil comme être un pécheur sauvé par grâce. Mais, savez-vous quoi? Souvent, je sais pas si c'est la tradition humaine, les raisonnements, les forteresses. Souvent, quand on parle de saint, des fois, là, bon, peut-être moins, en tout cas à l'Église, je pense qu'on est de moins en moins, mais des fois, dans les milieux chrétiens, quand on parle de saint, soit c'est quelqu'un dans l'histoire bien loin, soit c'est une personne qui a roulé sa bosse, là, quelqu'un qui a 90 ans, puis ah, c'est un vieux saint, un autre saint, tu sais, puis là, on... tu sais, quelqu'un qui a fait ses preuves là, dans le service pour le Seigneur. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible, 56 fois après la croix, tu sais, puis là, dans tout ce qui vient après l'ensevelissement, la crucifixion, l'assouvissement, la résurrection, l'ascension de Christ. Après la croix, la parole réfère aux enfants de Dieu, premièrement, comme des saints. 56 fois, quand ça parle de saints, ça parle de des personnes. Ça définit ce sont les saints. OK? Puis même pour ceux de Corinthe, en passant, pécheur, ça ne réfère pas aux enfants de Dieu. Il y a des gens qui veulent dire, ah, mais Paul il dit, pécheur, donc je suis le premier. Dans le contexte, 1 Timothée 1,15, je pense que c'est clair. Puis je vous le lis, là, vous pourrez vous faire votre idée vous-même, vous irez le vérifier par vous-même, mais... Quand Paul dit « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Il n'est pas en train de dire « C'est ce que je suis maintenant, mais Paul dit « Je suis comme... Je me distingue parmi les pécheurs. » Moi, là, que j'étais vraiment tout qu'un pécheur, il réfère à son passé, puis donc il réfère à Christ aussi au passé. Et donc, c'est clair que Paul réfère à lui avant d'être sauvé. Mais sans aller plus loin à ce niveau-là, je vais amener un point par rapport à ce qu'on considère ensemble après-midi. Si on se voit comme un sauveur, un pécheur sauvé par grâce, un sauveur, bon, on peut se voir comme un sauveur, ça c'est pas une bonne idée non plus.
Bon, c'est pas
une hérésie. Ouais. Non, mais des fois on peut se voir, hein, je vais régler les problèmes de ma femme, va régler les problèmes de mon mari. On peut se voir, on me dit souvent, c'est une hérésie, oui. Mais surtout quand on la pratique, c'est encore pire. On peut le croire, puis on peut le vivre. Non. Est-ce que je me vois comme un pécheur sauvé par grâce? Si c'est le cas, ben, je vais définir ma vie en fonction de ma performance. Tandis que si je me vois en tant que saint, ben là, qu'est-ce qui fait que je suis un saint? C'est ce que Dieu a fait de moi. Là, c'est plus ma performance. J'ai pas rapport. Là, c'est pas moi qui me suis rendu un saint. Là, je me suis pas béatifié. Là. Les gens là, qu'on dit que c'est des saints, c'est tout avec les œuvres. Mais bibliquement parlant, c'est non. C'est Dieu qui nous a pris dans le monde et nous a placés en Jésus-Christ. C'est ça l'idée d'être saint. On est à part. On est en lui. OK? Et ça, pourquoi je dis que c'est notre vrai combat qui est révélé comme ça, le combat de l'accepter de se voir comme tel. C'est ça le combat de la foi, c'est d'accepter ce que Dieu nous dit sur nous, peu importe comment qu'on pense, comment qu'on sent, puis qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, amener les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, puis amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, nos fausses pensées, je veux dire, c'est dur de... c'est dur, je veux dire, assujettir ses pensées, ces choses qui sont en dedans de nous depuis tellement d'années, puis se voir à la lumière de ce que Dieu a fait de nous, c'est pas automatique. Il y a un combat là où est-ce que, c'est ça, puis le contexte de 2 Corinthiens 10, 4 et 5, c'est vraiment la guerre spirituelle. Puis ça dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses-là, ces façons de penser, ces choses qu'on est donc habitués, puis c'est avec ces armes qui sont pas charnelles, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, qu'on peut vaincre puis être triomphant dans cette lutte. Et donc, ça m'amène au troisième point. Notre vraie vie est révélée. Verset 5. Donc, on a vu, on est mort avec Christ, enseveli avec lui, verset 4, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même on marche en nouveauté de vie. Maintenant, verset 5. Notre vraie vie qui est révélée, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Ceux qui prennent des références, ceux qui prennent des notes, qui mettent des références parallèles, c'est comme Galates 2:20, ou encore mieux que ça, Jean 15. Une même plante avec lui. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Okay? Une même plante avec lui par la conformité en sa mort. Nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. On est unis à Christ dans sa mort, sa résurrection. Là, je pose une autre question théologique. Est-ce que notre vieil homme, notre ancienne nature, possède la puissance de la résurrection? Non. Non, c'est impossible. C'est chose impossible. OK? Car, chose impossible alors, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Non, Dieu n'a pas donné la puissance de résurrection à notre ancienne nature, il l'a crucifié. Dieu n'est pas intéressé à améliorer ce qu'on était en Adam. Il a fallu qu'il s'en débarrasse complètement. Il n'a pas donné une nouvelle vie à Adam, il nous a donné la vie de Jésus-Christ à la place. C'est important ça. Dieu n'a pas amélioré notre vieil homme. Il l'a complètement crucifié, il l'a enlevé complètement du portrait pour nous donner sa vie. Et il y a seulement une vie qui a la puissance de la résurrection, de la puissance sur la mort, c'est la vie de Christ. C'est Christ en nous. That's it, comme dirait Bounikou. On a maintenant cette vie en nous, et son nom, c'est Jésus-Christ. Christ en nous, son esprit, hein, c'est lui qui a le Fils, a la vie. Donc, comment Dieu décrit cette vie nouvelle et présente que nous avons? Ben, il dit qu'il est notre vie, car Christ est ma vie. Ou lorsque Christ, votre vie apparaîtra. Quelqu'un, tu demandes à un chrétien, c'est quoi ta vie? Ma vie, c'est Christ. C'est ça la réponse chrétienne. Christ est ma vie. C'est ça ma vie. C'est Jésus-Christ lui-même. Okay? C'est ça la grande révélation du Nouveau Testament. C'est ça le fruit. À cause que je suis mort maintenant, je peux vivre. Mais c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Okay? C'est ça l'essence de notre sanctification. C'est pas nous qui essayons. C'est Dieu qui vit à travers nous. Mais avez-vous remarqué que ça nous dit dans Colossiens, c'est drôle pareil, car vous êtes mort, OK, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée, notre vie. Êtes-vous déjà pensé? Non, notre vie est cachée. Ça veut dire que c'est par les yeux de la foi qu'on discerne, qu'on voit cette vraie vie, cette source de vie. Elle est cachée, n'est pas évident, parce que quelqu'un peut nous regarder et on n'a rien. On ne devient pas un Superman, là, que là, on prend un auto et on la lève dans nos bras, puis tout ça. Je veux dire, un chrétien n'a rien d'extravagant. En fait, souvent, les chrétiens, c'est des gens bien ordinaires, bien, des fois, low profile, ou peu importe. Mais ce qui fait que c'est spécial, la vie chrétienne, c'est pas le contenant, c'est le contenu. C'est Christ dans la personne. Puis d'ailleurs, Dieu, ça nous dit, hein, il aime ça prendre les choses que le monde méprise, les choses folles, les choses faites, puis il confond les sages. Parce qu'il prend des petits récipients tout ordinaires, puis met la beauté, la gloire de Christ.
Amen.
Pour que la gloire ne soit pas au récipient, mm-hmm. mais à Christ qui vit. Puis nous, on est comme des vases de terre. Hein? Pour que, justement, c'est ça que ça dit dans 2 Corinthiens, que la gloire de Christ revienne à lui. Et à ce sujet-là, certains chrétiens disent, hey, je l'ai déjà dit, ah, je suis bien coupable d'avoir dit bien des affaires tout croche quand je regarde ces affaires-là, là. Oh mon ami. Mais tu sais, quand on ne comprend pas quelque chose, en tout cas. Écoutez, n'est-ce pas vrai, des fois on dit, ah, on se dépense toute la semaine pour le Seigneur, puis on vient se recharger dans la maison de Dieu le dimanche. Je comprends l'idée, là. C'est vrai que c'est... Moi, je suis tellement béni de venir à l'église, puis tout ça, puis... C'est vrai que ça me recharge, ça m'encourage, tout ça, mais... Pensez-y, là. Dieu veut qu'on soit toujours directement branché à la source de vie, pas juste le dimanche à l'église. Christ est notre vie. On n'a pas besoin d'attendre au dimanche pour être rechargé, là. Amen. On demeure en lui. En passant, je ne veux en rien diminuer la bénédiction d'être avec le peuple de Dieu, là. C'est vrai, quelque chose de spécial, là, mais... C'est ça la vie de Christ, c'est que c'est pas on attend un moment spécial, c'est que tout le temps on a accès direct à la source de vie. Il est notre vie, il est en nous, on demeure en lui. Lorsqu'on apprend à vivre ainsi par la foi, là, Galates 2.20, là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu nous remplit de reconnaissance, de joie, d'amour. Et là, je dirais, on va déborder, on va relâcher cette vie. Lorsqu'on se réunit avec les saints dimanche, non seulement on va être rechargé, mais on va recharger aussi les autres. Parce que c'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. OK? Juste une distinction, ça me aide à comprendre ici ce dont il est question. Donc, à la lumière des versets 4 et 5, on voit que notre nouveau but est différent de l'ancien, c'est-à-dire avant, qu'est-ce qu'on voulait? Avant, on voulait subvenir à nos besoins avec les différents patterns de notre chair. Quelque chose ne marche pas, moi je suis habitué, c'est ça que je fais. Quelque chose ne marche pas, je baboune dans mon coin. Quelque chose ne marche pas, je me mets à... Je pète ma coche, puis... tout le monde autour de moi, ils vont bien savoir que ça ne marche pas. Ou quelque chose ne marche pas, je fuis, je m'en vais. Ou je bois mes problèmes, je les étouffe dans toutes sortes de boucanes qui se vendent sur le marché, noirs et pas noirs. Surtout à cette heure, il y en a plus que... Comprenez-vous, ça, c'est les patterns de la chair. Je veux subvenir à mes besoins, je veux réussir à sortir... Que ça aille mieux en faisant ci ou en faisant ça. Notre nouveau but maintenant, c'est de glorifier Dieu par ses désirs qu'il a mis direct dans notre cœur. On a la pensée de Christ par cette nouvelle façon de penser qu'on a. Comme Paul qui dit, je me réjouis des persécutions, je me réjouis des souffrances. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on trouve Dieu. C'est là que c'est... Parce que quand on est faible, c'est là qu'on est fort, c'est là que la grâce de Dieu est là. Donc le but... C'est plus d'essayer de s'en sortir, de plus souffrir, qu'il n'y ait plus de problème. Non, notre but, c'est ce que Dieu veut faire avec nous autres là-dedans. Notre but, c'est de laisser Dieu être et faire tout ce qu'il veut faire dans ce qu'il est en train de faire avec nous autres. Comme ma femme disait, « Hey, qui est assez fou pour dire, merci Dieu que tu me brises? » Oui, parce que tu me brises, parce que c'est beau ce que ça produit. Oui, ça souffre. Oui, ça fait mal. C'est pas agréable. Je leur demanderais-tu copier-coller pareil? Probablement pas, mais je vois. Parce que mon but, c'est plus de juste, faut que tout aille bien, mais j'avais plus de problème. Mon but, c'est Christ. Puis quand je vois qu'il y a des problèmes, puis que lui en ressort, puis est manifesté, parfait, c'est gagnant. C'est secondaire si j'ai à souffrir pour. C'est secondaire si il y a un prix à payer. Oui?
Oh, j'ai mal, puis il faut que je m'organise. Puis c'est Christ qui est le focus dans la souffrance. La souffrance, la puissance de la souffrance est brisée.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est
compréhensible. Ouais, ben ça revient un peu à ce que je disais, tu sais, la semaine passée, c'était la semaine passée avec Job. Tu sais, que Dieu nous donne des rendez-vous.
C'est ça que Maxime, là, maintenant, si on veut le mettre en pratique, là, selon moi, c'est pour ça que
Maxime. Si on veut mettre Maxime en pratique.
Non, mais. Normalement, humainement parlant, il devrait être encore en train de pleurer puis ou essayer de s'en sortir. Ou... OK, donc, comment tu expliques ça? Mais c'est la puissance de la souffrance qui a été brisée dans sa vie parce qu'il ne se concentre plus sur une méthode pour s'en sortir. Ou c'est Christ qui est là.
Amen.
Donc, c'est lui qui a brisé cette puissance de...
Amen. Amen. Hey, je termine. J'ai juste deux, trois petites choses à dire. Après ça, je vais vous laisser pour des questions. Sinon, on n'est pas supposé, là, de... Non, non, je ne suis pas mêlé parce que je t'ai rendu à ma conclusion. Je vous pose une question. Êtes-vous encore en train d'essayer d'obtenir l'acceptation, la valeur, comme le monde le fait, tandis que vous avez déjà les deux, vous êtes déjà accepté, vous avez déjà toute la valeur aux yeux de Dieu que vous pouvez avoir, vous êtes dans le bien-aimé, Christ a versé son sang pour vous. Est-ce que vous employez les méthodes de performance pour essayer d'être accepté par autrui? Ça, ça n'est une bonne. Des fois, ah oui, Dieu m'accepte, mais là, il faut que les autres... Puis c'est pas qu'on se fiche du monde, puis, tu sais, je veux dire, c'est normal de vouloir... Tu sais, ça dit qu'on cherche pas notre intérêt, mais qu'on cherche celui des autres. Mais si ça devient une dépendance que j'ai, que je veux que les autres m'acceptent, puis... Ben là, c'est un problème, parce que là, je deviens esclave de ça, puis là, je fais ci ou je fais pas ça pour être accepté. Ou est-ce que la performance est là pour satisfaire mes propres standards charnels? Là, je fais ça, donc là, je suis correct, là. Là, je suis content de moi, puis Dieu doit sûrement aussi être content de moi. Mes amis, on a déjà une valeur infinie aux yeux de Dieu. Il a payé par son propre sang pour notre vie, puis il nous accepte à 100% dans le bien-aimé. OK, on sera peut-être... Moi, je vous dis, en fait, ça dit, si quelqu'un veut vivre pieusement, il va être persécuté. On ne sera pas accepté par tout le monde. En fait, ça se peut pas. Même quelqu'un n'est pas sauvé, il n'est pas accepté par tout le monde. Dire, on a tout le temps un ennemi à quelque part. On l'a appris, hein? Au laser, on avait tout le temps un pire ennemi. Ben, c'est de même dans la vie aussi. Mais savez-vous quoi? Bienvenue dans le club. Jésus, qui était Dieu, je veux dire, parfait sur terre, ça dit qu'il était méprisé, abandonné des hommes. Vous savez, tu sais, ouais, rejeter Jésus, il est tellement merveilleux. C'est la dernière personne à mépriser et à rejeter, mais c'était sa vie. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable dans celui où on se détourne le visage. Fait que, tu sais, je veux dire, si Jésus était traité de même, on ne doit pas être surpris. Mais c'est quoi, Jésus, même quand il était rejeté, il n'était pas abattu. Parce qu'il savait qu'il faisait constamment ce qui était agréable au Père. Bon, lui était dans la perfection, mais il savait qu'il n'était pas rejeté par le Père. Il était aimé. Il savait qu'il était 100% accepté, qu'il avait sa valeur dans ce qu'il était devant Dieu. Et donc, si on recherche à combler nos besoins en dehors de l'acceptation que Dieu nous donne, mes amis, je suis désolé de vous le dire, mais c'est de l'idolâtrie, c'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité. C'est pas croire que Dieu nous a déjà tout donné, c'est d'essayer de faire ce que Dieu a déjà fait. C'est marcher selon des pensées charnelles. Donc, au lieu de lutter pour la performance, puis pour essayer d'être aimé, puis tout ça, vivons donc comme ceux que nous sommes déjà aimés, acceptés, et qu'on arrête de croire aux mensonges qu'on a cru aussi longtemps, qu'ils ont fait manquer ce qu'on est en Jésus-Christ. Jésus est notre vie, c'est lui qui vit en nous. Et ça, mes amis, ça va nous donner des ailes, ça va nous fortifier dans l'homme, la femme intérieure. Amen, avez-vous des questions? Oui? Ah oui.
Ça me fait penser au jardin d'Éden. Parce qu'Adam et Ève, il y avait tout dans le jardin, mais ils n'ont pas cru Dieu. Ils n'ont pas cru qu'il y avait tout. Ils sont allés faire des choses qui promettaient la vie. Puis on sait ce que ça donnait comme fruit. C'est exactement la même chose pour nous. Si on ne croit pas ce qu'on a en lui, là,
ouais. Absolument, c'est un bon exemple. Il y avait tout, puis ils ne l'ont pas cru. Fait qu'ils ont pensé qu'il y avait du gazon plus vert ailleurs. Puis c'était faux. C'est une tromperie. Puis plus ça change, plus c'est pareil. Amen. D'autres choses, questions, commentaires? Pas de plainte, c'est fermé le bureau des plaintes le dimanche.
Juste le feu.
Amen.